Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Tout un programme. Dans le Nouveau Testament, on trouve une quantité assez incroyable d'exhortations de ce type les uns les autres. Je me demande souvent comment ce qu'ils font, ceux qui vivent leur foi pour eux. Hein. Il y a des gens comme ça qui disent « moi, je ne fais pas partie d'une église, je vis la foi pour moi ». Comment ce qu'ils font pour interpréter tous ces nombreux versets, passages dans la Bible qui nous parlent des uns des autres? En tout cas, moi, je me suis dit « waouh, tout un programme ». Tout un programme, et je suis contente. Je trouve que Jésus, il a eu une bonne idée de se dire, eh ben, tiens, je vais construire mon église, mon peuple. Et puis, eh bien, dans cette église, on a justement l'occasion de pouvoir apprendre à grandir dans ces différentes exhortations, qui sont honnêtement faciles à comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande traduction ou d'avoir une grande explication pour savoir ce que ça signifie. Et en même temps, tellement pas si simple que ça à mettre en pratique, franchement. Alors, il y a deux semaines, Antonin, non, trois semaines, je crois, ou quatre, hein, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, Antonin nous avait parlé de « aimez-vous les uns les autres ». C'est peut-être le plus connu, et certainement, puisque Jésus il dit que toute la loi est résumée dans le fait d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, et puis de nous aimer les uns les autres. Et puis aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à encouragez-vous les uns les autres. Alors si on fait une recherche, une petite recherche simple, là, il existe beaucoup de possibilités aujourd'hui avec Internet de faire des recherches, pour garder, trouver quels sont les versets bibliques qui nous parlent de encouragez-vous les uns les autres. On va en trouver trois ou quatre versets, ça dépend un petit peu des traductions. J'ai un petit problème de scotch. Ce n'est pas le beamer aujourd'hui qui embête, c'est le scotch. C'est le beamer du jour, en fait. Ah là là. Je ne sais pas si quelqu'un arriverait mieux que moi à s'occuper de ce scotch. Mais en attendant, bref, ce n'est pas grave. Je la tiens comme ça. Donc, je disais que si on fait une recherche simple et rapide, on va trouver trois ou quatre versets, donc ça dépend des traductions, qui nous parlent de justement cette notion « encouragez-vous les uns les autres ». Alors, y a-t-il quelqu'un qui aime bien lire et qui aimerait lire, du coup, ces trois versets qui sont notés, qui apparaissent au beamer? Qui c'est qui nous lirait ces trois passages? Quelqu'un qui a une voix forte, qui aime bien lire. Merci Marie. Il y a aussi dans pas mal de traductions encore un autre verset dans Thessaloniciens 4:18 qui est traduit par « Encouragez-vous les uns les autres » ou « Réconfortez-vous les uns les autres ». Mais ça, c'est si on fait une recherche rapide et simple. Mais en fait, si on fait une recherche un petit peu plus approfondie puis qu'on regarde ce « Encouragez-vous » en grec, ce verbe-là, ben en fait, on voit que c'est un verbe en grec qui a une multitude de traductions possibles en français. Il peut aussi être traduit par prier, supplier, demander intensément. Par exemple, dans l'évangile de Marc, c'est parlé de Jésus, et puis c'est dit, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Eh bien, ce verbe « supplier » en français, c'est le même mot grec que ici « encouragez-vous les uns les autres ». C'est vraiment assez étonnant, assez intéressant. Donc voilà, si on fait une recherche plus approfondie, on verra que ce mot « parakaleo », il est vraiment traduit dans plein... Il a vraiment beaucoup de signification. Mais on va aujourd'hui s'arrêter, réfléchir ensemble à ces passages justement qui sont traduits par « encourager », le fait de s'encourager les uns les autres. Réfléchir, qu'est-ce qu'ils nous disent ces passages et puis comment est-ce qu'on peut les mettre en pratique dans notre vie. Mais avant cela, avant qu'on revienne sur ces trois versets-là et puis qu'on réfléchisse peut-être un petit peu de manière pratique, effectivement, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on peut s'encourager? Qu'est-ce que ça signifie? Puis comment est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres? Je vous propose une petite étape intermédiaire qui me paraît essentielle. C'est celle de prendre conscience de notre propre besoin à nous-mêmes d'être encouragés, réconfortés par Dieu. Et je ne sais pas si vous avez peut-être, si vous vous en souvenez ou que vous avez réalisé, c'est le passage que je vous ai lu au début de célébration où l'apôtre Paul, il le dit bien, il l'exprime bien. Cette nécessité, finalement, d'être soi-même rejoint par ce Dieu qui veut nous apporter la consolation. Cette prise de conscience, peut-être que nous-mêmes, on a encore, même si on chemine avec Dieu depuis toujours, même si on, peut-être qu'on pourrait se dire « Ouais, mais à un certain âge, quand même, les blessures, les difficultés de la vie, c'est bon. » Moi, je crois que c'est quelque chose qui dure toute la vie et qu'on a besoin encore et encore d'être rejoint, réconforté, consolé nous-mêmes par Dieu. Parce que personne n'est épargné par les blessures, les difficultés de la vie. Daniel Bourguet, je vous en ai parlé déjà il y a quelques semaines, c'est un auteur que j'ai découvert là récemment puis j'aime bien lire du coup ses livres. Il l'exprime, il dit « Nombreux sont les blessés de l'âme. » Nombreux sont les blessés de l'âme. Et je crois aussi dans les églises. Peut-être que la différence, c'est que peut-être parfois on a un peu de la peine à le reconnaître, ou bien on a l'impression que c'est bon, on n'a pas trop de problèmes. Mais je crois qu'on a besoin de découvrir, de redécouvrir cette tendresse de Dieu. Qu'on a besoin de laisser le souffle de son esprit venir tout à nouveau toucher notre cœur, notre âme, par sa grâce, par son amour. Je relis une fois ces paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, où il dit « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçu de lui. » Et j'ai recherché, dans l'Ancien Testament, il y a aussi beaucoup de versets, énormément, qui nous parlent de ce réconfort que Dieu veut nous apporter. En Ésaïe 40, par exemple, le verset 1 qui est noté aussi là, « Réconfortez, oui, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. » Ou bien le psalmiste, au psaume 94, verset 19, qui dit ceci, et quand j'ai le cœur surchargé de soucis, tu me consoles, tu me rends la joie. L'apôtre Paul l'exprime aussi dans la lettre aux Romains, tout à la fin de sa lettre aux Romains, il dit que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Est-ce que l'apôtre Paul, là, il serait peut-être même en train de nous dire que c'est même une condition nécessaire pour pouvoir vivre en bon accord les uns avec les autres que d'être rejoints encore et encore, jour après jour, par ce Dieu qui est la source de la persévérance et du réconfort. Ce Dieu qui est, comme on l'a chanté tout à l'heure, ce Dieu tout-puissant, quand je songe à l'univers, les astres que tu as créés, ce Dieu infiniment grand et aussi ce Dieu qui veut nous rejoindre par sa tendresse, par sa bonté, qui veut nous consoler. C'est fort, ces paroles de l'apôtre Paul qui dit qu'il est ce Dieu qui nous réconforte en toute occasion, qu'il est celui qui nous console dans toutes nos détresses, ce Dieu qui est la source de la persévérance et du réconfort. Alors, j'aimerais vous inviter à prendre juste quelques secondes de silence pour réfléchir à deux questions. D'abord, se pose la question, est-ce que j'ai conscience de mes blessures et de mon besoin de réconfort? Est-ce que j'ai conscience que j'ai besoin que ce Dieu Tout-Puissant, eh bien, il vienne me rejoindre, il vienne m'apporter son réconfort, il vienne m'apporter sa consolation. J'ai besoin d'être rejoint, touché par ce Dieu de bonté, par ce Dieu de tendresse. Ou est-ce que peut-être j'ai plutôt tendance à avoir un mécanisme de défense, de me dire je vais de l'avant, je ne réfléchis pas trop à mes blessures, à mon besoin de réconfort. Peut-être que je me dis, c'est bon, une fois pour toutes, le Seigneur il m'a aimé, rejoint, sauvé par sa grâce. Et puis peut-être la deuxième question aussi importante, c'est quand je prends conscience de mon besoin de réconfort, de consolation, eh bien, est-ce que c'est vers Dieu que je le cherche? Est-ce que Dieu est la source de mon réconfort, de ma consolation? Je vous invite juste à quelques secondes de silence. Mais on ne va pas s'arrêter là, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est « Encouragez-vous les uns les autres ». Être consolé, encouragé, réconforté par le Seigneur, « afin de », nous dit l'apôtre Paul. Il ne faudrait pas oublier ce « afin de », pas juste pour être nous-mêmes bien, en paix avec soi-même, « afin de », « afin de », « afin de pouvoir être vous-même ». Une source de réconfort, afin de pouvoir réconforter, consoler, encourager ceux qui passent par toutes sortes de détresse aussi. Ça m'a fait penser un petit peu à nos deux S salutistes, sauver pour servir. Ils vont ensemble, mais en même temps, c'est sauver pour servir. On a besoin d'être sauvé, rejoint, touché par le Seigneur. Et en même temps, ça ne s'arrête pas là. On n'est pas juste sauvé pour... juste pour nous-mêmes. Mais le Seigneur, il nous appelle à plus loin. Il nous appelle à être sauvés pour servir, à être consolés afin que nous puissions aussi réconforter, consoler ceux qui passent par toutes sortes de détresse. Donc voilà, vous avez sous les yeux là ces trois passages qui nous parlent de se « encouragez-vous les uns les autres ». Alors peut-être que la première question qu'on pourrait se poser, puis que j'aimerais vous poser, puis écouter vos réponses, c'est qu'est-ce que ça signifie « encourager » ? C'est basique, hein, si on ne sait pas trop répondre à cette question, ce sera un peu compliqué de se demander. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Intéressant, être là. Être là. Valoriser. Ouais, très, très intéressant ce que tu dis là, Michel, aussi. Ouais. Accompagner. Très bien. Une bonne parole. Ouais, apporter une bonne parole. Donner un autre point de vue. Ouais. Être présent. Ouais. Écouter. Oui, parfois, qu'est-ce que c'est dur d'écouter sans donner des bons conseils. Oui, ce souvenir, ouais. Mmh. Ouais, c'est intéressant ce souvenir. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de ça aussi. Ouais. Ta présence, Marie, est un encouragement en soi. Donc. Oui, ce souvenir, c'est intéressant, ouais. Encourager quelqu'un d'autre, hein, encore une autre idée. Encourager, pousser. Oui, eh ben, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi, je ne m'étais pas souvenu de ça. Mais le dictionnaire, je me l'ai rappelé, parce que j'ai un peu recherché, tiens, qu'est-ce que disent les dictionnaires. Donc, effectivement, la définition basique, c'est donner du courage, de l'assurance, réconforter. Mais il y a aussi, puis on l'oublie, enfin, en tout cas, moi, je l'avais oublié, ça rejoint ce que tu viens de dire, la Vili, il y a le fait de stimuler. De donner le désir de, le dictionnaire dit même, les moyens d'entreprendre ou de conduire une action. Et puis je me suis dit, mais effectivement, il peut y avoir, hein, parfois, j'hésite un petit peu, est-ce que je vais vraiment réussir à faire ces, je ne sais pas par exemple, ces 3 jours des dents du midi, ce tour des dents du midi en 3 jours. Et puis j'ai eu besoin de quelques personnes qui m'ont encouragé, vas-y de l'avant, c'est un super projet, une bonne idée. Et puis, parfois, dans la foi aussi, dans notre foi aussi, peut-être qu'on a besoin d'encouragement dans le sens d'être réconforté, d'être consolé, de recevoir une bonne parole. Peut-être que parfois, on a un peu besoin, comme Vili, c'est lui qui l'a dit, j'oserais le faire avec lui, du coup, un petit peu qu'on nous pousse au derrière, allez, maintenant, va de l'avant, hein, nous stimuler. Mais si, et ça fait combien de temps que t'as plus ouvert ta Bible? Et puis, si cette semaine... Si cette semaine, on lisait les deux ensemble l'Épître aux Galates. Enfin, voilà, il y a cette idée aussi un petit peu de se stimuler. C'est vaste, hein, encourager. Je trouve que c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'on le voit déjà ici dans ce « encouragez-vous les uns les autres ». C'est super vaste. Il n'y a pas qu'une manière de faire, il n'y a pas qu'un bon moyen. C'est vraiment très vaste. Je pense que ça dépend de nous, puis ça dépend de la personne qu'on encourage. Et je relève aussi, je trouve intéressant qu'Anne-Michel ait relevé le fait que parfois, encourager quelqu'un, ça passe aussi justement par quelque chose de très pratique et de très concret. Quand on est maman avec des enfants petits, par exemple, ben, je crois que le plus grand encouragement, c'est quand on nous prend nos enfants un après-midi. Ça vaut tout l'or du monde quand on est découragé ou qu'on est fatigué ou je ne sais quoi. Il y a des moments où ça vaut plus que toutes les plus belles paroles du monde. Parfois, on peut encourager quelqu'un en ayant nettoyé avec cette personne son appartement, par exemple. Enfin, il y a 1000 moyens d'encourager, faire une visite à quelqu'un. Mais c'est vrai que je crois que parfois aussi, ça passe par de l'action. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ces passages, quand on cherche justement sur « Encouragez-vous les uns les autres », c'est que tous ces passages-là, ils se trouvent dans des lettres qui sont écrites à des églises. Alors, la lettre aux Hébreux, on n'est pas tellement sûr, en fait, on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. On n'est pas non plus, on ne sait pas exactement à quelle église, mais il y a beaucoup d'indices dans la lettre qui nous montrent que c'est effectivement quelqu'un qui l'a écrite à une église. Et d'ailleurs, mais vous le savez certainement, ça, à part les évangiles, puis le livre des Actes, tout le reste du Nouveau Testament a été écrit à des églises, à des communautés, et pas à des chrétiens seuls, à des églises. Et moi, je me suis dit, mais je crois qu'il y a vraiment aussi, du coup, cette indication de dire, mais c'est dans le cadre de l'Église qu'on a besoin aussi, peut-être même prioritairement d'apprendre à s'encourager les uns les autres. Bien sûr, ça ne signifie pas, bien au contraire, l'idée qu'on ne doit pas encourager des personnes en dehors de l'Église. Au contraire, d'ailleurs, c'est même, je pense, un très beau témoignage. Et puis, on est appelé à le faire. Mais je crois que ce serait aussi faux d'avoir en vue que l'extérieur et puis d'oublier qu'on a besoin de s'encourager les uns les autres dans l'Église. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a aussi frappé dans ces trois passages, je ne sais pas si vous l'avez relevé aussi vous, c'est que le fait de s'encourager les uns aux autres s'est mis en relation avec la foi. Encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi. Soyez bien affermis dans la foi. Et même le texte aux Hébreux, où ça ressort peut-être pas de manière nette, mais si on regarde bien le contexte de ce chapitre-là, on voit en fait qu'il s'agit il est parlé du péché là dans ce verset-là, il s'agit du péché d'entendre la voix de Dieu et de refuser de l'écouter. C'est ce fameux texte où, dans un seul chapitre, je crois qu'il reprend au moins 4 ou 5 fois, une citation de l'Ancien Testament qui dit « Vous avez refusé d'entrer dans le repos que Dieu vous avait proposé ». Donc on voit aussi que là, on est aussi dans le domaine de la foi et pas dans la morale. Et moi, je me suis dit « Mais il y a vraiment quelque chose de cela à saisir dans cet « Encouragez-vous les uns les autres » avec la foi, avec notre foi. Parce que la foi, c'est un combat. Ce n'est pas une paisible croisière. La foi, c'est un combat. Jimmy Cessin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le chanteur, son nom d'artiste est Mijacès, enfin, je sais pas, les jeunes rigoleraient, je ne sais pas le prononcer, c'est un jeune de Orbe qui chante du rap chrétien. Et lui dit, il y aura 1000 fois plus de raisons d'abandonner la foi que de tenir bon. Il y a tellement de raisons, tellement de choses, de circonstances extérieures ou intérieures, parfois même simplement le fait d'avoir des vies tellement chargées puis remplies, qui pourraient nous faire abandonner la foi. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, c'est un passage bien connu dans la lettre de 2 Timothée, l'apôtre Paul, il ne fait pas le calcul du nombre d'églises qu'il a fondées. Il ne fait pas le calcul du nombre de disciples qu'il a formés. Il ne fait pas le calcul même du nombre de causes justes qu'il a défendues. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul il dit « J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Gagné la foi. J'ai gardé la foi. » À la fin de sa vie, l'apôtre Paul il dit « J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. Et ce combat qu'il a combattu jusqu'au bout, c'est celui de la foi. » Lundi, au C+ à Ardon, on a étudié le texte d'Éphésiens 6 qui parle de cette armure du chrétien et du combat spirituel. Et puis on a relevé que justement l'ennemi, prioritairement, il va chercher à s'attaquer à notre foi. En fait, ce qui l'intéresse, c'est qu'on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de sa grâce, on s'éloigne de son amour. On se met à douter. Est-ce que les promesses de Dieu sont vraiment valables ? Est-ce que vraiment Dieu il est avec moi ? Est-ce que vraiment Dieu il m'accompagne ? Est-ce que vraiment cet évangile, c'est la bonne nouvelle ? Est-ce que vraiment cet évangile, c'est la priorité de ce que les gens ont besoin d'entendre ? Et si tout ça, ce n'était pas vraiment vrai ? Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres, de nous aider à grandir et à persévérer dans la foi. Et je crois que l'encouragement, c'est un antidote à l'incrédulité. C'est s'encourager les uns aux autres. Peut-être qu'on pourrait se dire, c'est ensemble combattre pour la foi. C'est ensemble s'aider à porter ce bouclier de la foi, justement, qui est une de ces parts de l'armure que nous dit l'apôtre Paul. Et puis, une autre chose que j'ai relevé de ce texte, c'est qu'au Thessalonicien, l'apôtre Paul il dit de persévérer. Il dit « comme vous le faites déjà ». Et les amis, je crois que le fait de s'encourager les uns les autres, comme de s'aimer les uns les autres, de s'accueillir les uns les autres, de se supporter les uns les autres, ce n'est pas une fois pour toutes. Et c'est peut-être même dans la durée, dans la persévérance, que c'est compliqué. Quand on se dit « ouais, bah, fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans », continuez, continuer à vous encourager les uns les autres. Il s'agit bien de besoin de persévérance. Et je crois que la persévérance, c'est une grâce qu'on reçoit du Seigneur. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique cette exhortation? Je me suis dit, on a déjà dit plein de choses là dans le partage, mais comment s'encourager les uns les autres? Et je me suis dit aussi que peut-être que quelque chose d'important, c'était aussi oser apprendre à être vulnérable et authentique. Parce que si on ne se partage pas nos soucis, nos combats dans la foi, nos découragements, eh bien, ce sera peut-être plus difficile de s'encourager les uns les autres. Et parfois, il me semble qu'il y a un petit peu cette tendance-là dans l'Église à dire « ça va, tout va bien, merci ». Et puis, je trouve que c'est le premier lieu où on devrait oser être vulnérable et puis dire « ben non, aujourd'hui, ça ne va pas si bien ». On a le droit de dire « ça ne va pas si bien, mais je n'ai pas envie de le partager ». Mais l'autre, il peut nous encourager dans la foi malgré tout. Oser partager nos doutes, nos difficultés, peut-être même nos moments de désert spirituel, parce qu'on en vit tous. Et puis, ce n'est pas une honte. Et puis, on a besoin de s'encourager. Ensuite, ben, je crois qu'il y a vraiment quelque chose aussi dans le fait d'être intentionnel. Peut-être que ça rejoint aussi le fait de se souvenir de Marie. Alors, bien sûr, se souvenir aussi de, peut-être effectivement, de ce que les autres nous ont partagé dimanche passé. Ah oui, mais tu m'avais dit que cette semaine, tu allais faire un contrôle médical. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le médecin ? Mais peut-être aussi de se souvenir, être intentionnel justement dans « et si j'essayais de mettre en pratique cette semaine, de justement s'encourager les uns les autres ?»« Et si quand je venais à l'église ou quand je croise quelqu'un, je choisis d'être intentionnel dans une parole d'encouragement ?» Peut-être que être intentionnel, c'est aussi savoir relever eh bien, justement, des sujets d'encouragement, plutôt que d'être fixé sur, bah, tiens, telle ou telle personne n'a pas levé les mains pendant la louange, ou bien il n'a pas le même point de vue que moi sur comment est-ce qu'il faut adorer Dieu. Plutôt que de se fixer peut-être sur des choses, vous savez, l'esprit de l'être humain, il n'est pas tout simple. On a tellement souvent de facilité à se fixer sur ce qui nous dérange, plutôt de se dire, ben tiens, je vais aller justement vers cette personne et puis lui donner un mot d'encouragement ou même lui dire, est-ce que tu aurais besoin d'une aide pratique ou bien est-ce que tu aimerais qu'on prie ensemble ou qu'on lise la Bible ensemble durant cette semaine parce que tu te sens découragé dans ta foi. Il y a plein de manières de mettre en pratique. Encouragez-vous les uns les autres. Et maintenant, frères et sœurs, adieu, dit l'apôtre Paul, il termine sa lettre. Soyez bien affermis dans la foi. Encouragez-vous les uns les autres. Mettez-vous d'accord, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est vraiment tout un programme. Et si l'apôtre Paul l'écrit, figurez-vous aux premières églises quand même. Aux premières églises qui avaient déjà des difficultés de vivre entre eux, le fait de vivre en paix, de se mettre d'accord, de s'encourager les uns les autres. Combien nous, on en a besoin aussi, encore aujourd'hui, de s'encourager les uns les autres. Alors, j'aimerais vous faire passer pour nous aider à nous en souvenir, pour nous aider à être intentionnels. Je vous ai imprimé ici, du coup, sur des petites feuilles cartonnées, justement, ce passage de Thessaloniciens. Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Alors, je vous le fais passer, hop, des deux côtés. Volontiers, Anne-Michel. Oui, bien sûr. Mmh. Amen. Oui. Ah ouais, c'est, j'ai pas pensé à ce point-là dans le message. Oui, c'est juste, t'as raison. Le fait d'encourager, c'est même pour nous-mêmes. Oui, oui. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois vraiment que c'est un processus qui dure toute une vie, d'être guéri de ses blessures, de prendre conscience qu'on a besoin encore et encore nous-mêmes ce réconfort de Dieu. Et puis même dans les moments les plus compliqués, de s'approcher des autres pour les encourager, c'est ouais, magnifique. Oui. Et parfois, peut-être même que ça nous permet peut-être d'être, je ne sais pas comment dire, peut-être que l'autre peut le prendre de manière même encore plus authentique. Oui, on se sent plus proche. C'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Si on a peut-être nous-mêmes jamais passé par, je ne sais pas, par des doutes ou par je ne sais quoi, quelles difficultés, ben, peut-être que l'autre va se sentir moins rejoint que par quelqu'un qui dit, écoute, je comprends de ce que tu vis actuellement, oui. Merci, tout à fait juste.